Ça va, vous ?
Cinéma Radio.
Ça va bien ?
La bande originale de votre vie.
Jean-Louis ! Il est parti ! Jean-Louis ! Mon Dieu !
Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique.
Il décide tout pour moi. Ça avertit personne. Et même les acteurs de cinéma. Au senti, ça fait nous la peine.
La disparition de ce
26e épisode, reprise d'Oscar au théâtre et Rabbi Jacob, première partie. Sortait la folie des grandeurs, cela faisait un mois que Louis avait pris une grande décision, à savoir renouer avec le théâtre, mettant de ce fait le cinéma en pause pendant un peu plus d'un an. Et quoi de mieux que de reprendre à nouveau Oscar pour se remettre en jambes.
Mon petit Castillo, nous l'appellerons Blaise.
Qui ça, notre enfant?
Et donc, de novembre 1971 à janvier 73, avec une pause au milieu de 4 mois, ce sera plus de 300 représentations et une fois de plus, toujours pas de captation filmée de la pièce. À ce jour, il n'existe seulement que quelques petits extraits de cette nouvelle version théâtrale, visible sur le DVD du film Oscar.
Vous allez voir que je ne suis pas aussi fou que j'en ai l'air. Pas de dos. Comme ça, pas de rien.
Dans la distribution, aux côtés de Funès, nous trouvons notamment son fils Olivier, et ce sera d'ailleurs le champ d'honneur de ce dernier dans le domaine artistique. En effet, à la fin de la tournée d'Oscar, Olivier deviendra pilote de ligne.
Et Olivier, qu'est-ce qu'il en pense, lui, de cette rentrée?
Louis et Olivier de Funès, interviewés par l'ORTF pour la reprise d'Oscar en 1971.
Je suis ravi parce que j'avais toujours envie de jouer au théâtre depuis que je suis tout petit. Et c'est formidable de jouer dans une pièce qui est remplie tous les soirs. Ça, c'est fabuleux.
Je suis très content de ce qu'il fait tous les jours. Il progresse. Ça me fait très plaisir et je tenais à le dire aussi.
Bertrand, je suis le plus heureux des hommes.
Espérons que ça durera.
Non.
Il y a une chose qui m'ennuie dans toute cette histoire.
Bah, laquelle?
Moi, en sortant d'ici, je peux très bien me faire écraser.
Vous pouvez très bien me glisser sur une peau de banane.
Mais comment? Mais j'ai perdu une vieille cousine comme ça.
L'autre partenaire de Louis dans cette reprise n'est autre que la reine du théâtre de boulevard dans les années 70 et 80, à savoir Maria Pacoum, déjà présente lors des représentations de 1961. Celle-ci gardera de sa collaboration avec De Funès un souvenir à la fois bienveillant et en même temps un peu contrasté.
Le respect qu'il avait vis-à-vis du public, c'est extraordinaire. Il en est mort d'ailleurs.
Maria Pacoum dans le making-of du DVD d'Oscar.
Parce que se donnant comme il se... On peut pas tenir comme ça. Si les gens ne riaient pas quand ils faisaient une fois le tour du fauteuil... Il le faisait deux fois et puis pas encore trois fois, quatre fois, jusqu'au moment où les gens hurlaient de rire. Mais lui, il était... Moi, je le regardais de la coulisse, hein, il était vert.
Et ce perfectionnisme poussé à l'extrême inquiète également la famille de Louis, Jeanne en tête. En effet, celle-ci a peur que la tension très élevée de l'acteur, conséquence de son jeu très physique, ne finisse par lui jouer des tours dans un futur proche. Elle ne se trompera pas.
Je le verrai voir ma Normandie.
Die, 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 die.
Non, Samuel, pas die, 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 si franci.
La France. Je le verrai voir ma Normandie. C'est le pays qu'il m'a donné les choux.
Après un tournage très éreintant de mars à juillet, voilà que sort le 18 octobre 1973 le film qui va définitivement réconcilier De Funès avec son public, à savoir Les Aventures de Rabbi Jacob, réalisé à nouveau par Gérard Oury. Louis joue ici l'inoubliable Victor Pivert, Pivert comme l'oiseau.
Pivert comme un Pivert, alors.
Oui, merci Victor, on avait compris. Bon, ça suffit maintenant, Victor.
Mais qu'est-ce que c'est que ce patacouic?
Ce dernier est un industriel autoritaire et méprisant, le personnage type des films de fufume, direz-vous. Oui, mais sauf que cette fois-ci, en plus de ses défauts habituels, il est complètement raciste, et ce, envers toutes les communautés.
Vous avez vu, c'est un Anglais.
Un Anglais? J'aime pas, moi, les Anglais. Vous les aimez, vous, les Anglais?
Ben oui.
Ah, moi, je les aime pas.
Regardez, un Suisse et un Allemand.
Et alors?
Un Suisse et un Allemand. On n'est plus en France, ici.
Bon, ben voilà, maintenant, on est derrière un Belge.
Pourquoi, les Belges d'Anglais, vous les aimez pas?
Ils nous polluent, les Belges.
Regardez son pont, c'est un pont belge.
Alors là, regardez, Salomon, regardez.
Quoi?
Eh ben, c'est propre, c'est net, c'est silencieux, y a pas de fumée. C'est un Français.
Monsieur?
Dis donc, toi, tu peux pas faire la queue comme tout le monde?
À
abruti, crétin, cocu, andouille.
Tu as entendu, hein? C'est ça les Français.
Et ses réflexions, il les fait à son chauffeur Salomon, joué par Henri Guibé, alors qu'il retourne sur Paris en voiture pour que Victor puisse marier sa fille à un riche blanc. Mais au détour de la conversation, son chauffeur lui fait une révélation étonnante, enfin étonnante pour Pivert.
Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs.
En tout cas, c'est pas monsieur que ça risque d'arriver, que mademoiselle épouse un noir.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Que monsieur est peut-être un peu raciste.
Raciste? Moi, raciste? Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu pas l'autre, n'est-ce pas?
Et son cheveu sur la langue?
Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde.
Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif.
Vous êtes juif? Salomon est juif. Oh!
Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin.
Mais il est pas juif.
Bah si.
Tout ça fait rien, je vous garde quand même.
Puis ils sont victimes d'un accident quand leur voiture, sur laquelle est posée une petite embarcation, se retourne et atterrit dans une rivière.
Mademoiselle, ne coupez pas! Je vous ai dit, débrouillez-vous! Il me faut tout de suite une dépanneuse! C'est plutôt un remorqueur qu'il vous faudrait!
Quoi? Une grève? Eh ben alors, il m'en faut tout ça! C'est mon usine qui s'est mise en grève!
Ah bon, si je me mets en grève!
Qu'est-ce qu'il dit?
Après avoir envoyé son chauffeur, Victor se retrouve tout seul, au milieu de nulle part. Il finit par trouver refuge dans un grand hangar, soi-disant désaffecté. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce lieu a été investi par un groupe d'hommes hostiles. Il s'agit en fait de la police secrète d'un pays imaginaire, avec à leur tête l'inquiétant colonel Fares, incarné non par Cyril Hanouna, dont il est le sosie parfait, mais par Renzo Montagnani.
Ahmed Larfi Slimane, en tant que président du tribunal 33 révolutionnaire, je te déclare traître à notre gouvernement.
Assassine-moi si tu veux, Fares, mais n'essaie pas de te faire passer pour un juge.
Messieurs, votre verdict.
La mort.
Le peuple est avec moi.
Oui, mais le pouvoir est au bout du fusil.
Mao Zedong.
Quand Pivert les surprend, ils sont en train d'interroger Mohamed Larbi Slimane, incarné par Claude Giraud, leader charismatique souhaitant délivrer son pays de la dictature et grand amateur de rousse devant l'éternel.
Parle, Slimane, que tu as la vie sauve.
La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe.
Eddie Merckx.
Non, Che Guevara.
Après avoir téléphoné au méchant plutôt qu'à la police, Pivert ne tarde pas à se faire opérer.
Allô, tu dis c'est la police?
Oui.
Donnez-moi le commissaire, vite, vite.
C'est le commissaire à l'appareil.
Il faut venir tout de suite à l'usine de chewing-gum, le Yankee.
Le chewing-gum?
Oui, le chewing-gum.
Je vous écoute.
J'ai eu un accident de voiture et je cherchais du secours quand je suis tombé sur une bande de moricots en train de s'entretuer. Des moricots avec des figures marrons jaunes, vous savez. Ouais, le moricot, quoi.
Et où vous trouvez-vous à ce moment, monsieur Pivert?
Eh ben, ici au bureau, à l'usine. Là, voilà, elle est là.
Surtout, ne bougez pas. Nous arrivons.
Mais dites-moi, monsieur Pivert, ces moricots, vous les avez vus?
Je pense bien.
Et surtout un gros, huileux, frisoté avec des petits yeux, tout petits yeux cruels dans le sac, avec des lunettes noires. Une vraie tête d'assassin.
Mais où sont-ils?
Mais ils sont là.
S'ensuit alors une délirante et mémorable poursuite dans le hangar, en fait une usine de chewing-gum, où poursuivant comme poursuivi se retrouve la tête la première dans une cuve remplie du produit susnommé. Enfin du chewing-gum quoi, suivez un peu. Profitant de la diversion pour s'enfuir, Slimane prend en otage Victor, non sans laisser quelques méchants sur le carreau.
Qu'est-ce que vous faites là?
Pas un mot, pas un geste! Ah,
je dois rentrer dans mon pays et vous allez m'aider.
Moi? Mais laissez-moi téléphoner à la police! Ils arrêteront Fares et ils vous laisseront rentrer chez vous!
La police!
Elle me livrera à mon gouvernement et à ses marmouches.
Marmouches?
Tueur!
Fares?
Le colonel Fares!
Mais alors tout le monde est contre vous?
Non, le peuple est avec moi et on ne peut pas mentir éternellement au peuple.
Mais si on peut! On peut très bien! Moi à mon usine, je lui demande toute la journée au peuple! Il aime qu'on lui mente, le peuple! Le peuple!
Si bien que le pauvre Pivert se retrouve accusé de meurtre et de ce fait pourchassé par la police, à savoir par un commissaire bas de plafond, joué par l'hilarant Claude Pieplu.
Ah, monsieur le divisionnaire, vous tombez à pied. On demande le Pivert en question au bureau des renseignements.
Alors faites boucler toutes les issues et demandez des renforts. Allons-y.
Allons-y, mais attention, c'est un tueur.
Vous avez vu la boîte à violon?
Oui, chef.
Et qu'est-ce qu'il y a dans une boîte à violon?
Bon, imbécile, une... Alors ouvrez-moi, j'y vais.
Arrivé à l'aéroport pour tourner dans son pays, Slimane et son otage décident de changer d'apparence pour échapper aux forces de l'ordre. Dans les toilettes, ils récupèrent donc les habits traditionnels d'un rabbin et son disciple. Le problème, c'est qu'avant de prendre leur avion, les deux imposteurs sont interceptés par une grande famille qui prennent à tort Victor pour un rabbin, se trouvant être leur beau-frère.
Chérie, laisse-moi aussi les chalons.
Chalons, chalons.
Qu'est-ce qu'on fait? Jouer le jeu, c'est notre seule chance.
Je l'aurais reconnu entre mille.
Elvie, c'est une schmolle.
Un schmolle?
Oui, oui, qui c'est lui, oncle Jacob?
Oui, oui, qui c'est? Elle a raison, elle demande qui c'est, elle a vraiment une réponse. Lui, c'est mon secrétaire, mon chauffeur et mon portier.
Mais comment s'appelle-t-il?
Il s'appelle Labi Rabi et Slimane, avec Man au bout.
Zeligman! Rabbi Zeligman, enchanté.
bien, Jacob. Tout me regarde de sa personne viol. Git.
Ya.
Israbin, c'est bien évidemment Rabbi Jacob, de retour en France après plusieurs années passées aux États-Unis et interprété par Marcel Daliot, inoubliable interprète du plus grand film français de tous les temps, La règle du jeu de Jean Renoir.
Mais respect, monsieur le grand rabbin.
Ah, ça vient. Je te l'avais bien dit que quelqu'un viendrait nous chercher.
Police, commissaire Andréani.
Ça l'est un grand honneur.
Mais ce n'est pas tous les jours qu'on accueille deux rabbins aussi recherchés.
Ça va bénir ma fille, que l'éternel soit avec toi.
Te fous pas de ma gueule, Pivert.
Piverte ? C'est une vraie arme de patriarche que tu t'es collé là. On peut toucher ?
Allez !
Puis cette famille amène les deux fugitifs dans la rue des Rosiers, célèbre quartier juif de Paris, où tous les habitants sont rassemblés pour célébrer le retour du fils prodigue.
Bienvenue à toi, Rabbi Jacob, puits de science, luminaire céleste.
Vous avez entendu ça, c'est bien, c'est très bien.
En souvenir de ce grand jour, accepte ce modeste Streimel.
Ouh, les beaux Streimel. Je les mettrai les dimanches.
Rabbi Jacob, alias Pivert, tente de donner le change en improvisant un discours inspiré par les devantures des commerces du quartier.
Rabbi Jacob, elle va parler.
Allez-y, dites quelque chose.
Cher Rosenfeld. Cher Rosenberg. Cher Kacher.
Mais non, pas ça. Alors là.
Cher Lizzy.
Puis il est obligé de prendre part à la traditionnelle danse assidique, dont les premières notes sont identifiables entre mille, tant la séquence est devenue populaire auprès du public.
Silence ! Rabbi Jacob, elle va danser !
Rabbi Jacob sait très bien danser.
Pivert retrouve aussi son chauffeur Salomon, de la même famille que Rabbi Jacob, qui bien entendu reconnaît tout de suite son patron.
Rabbi Jacob !
C'est mon chauffeur, il m'a reconnu, qu'est-ce que je vais faire ?
Moi, je n'ai qu'une question à vous poser. Mon patron m'a flanqué à la porte parce que je refusais de travailler le samedi.
Qu'est-ce que vous feriez à ma place ?
Demande-lui de te réengager, il te dira oui. Demande-lui de te augmenter, il te dira oui.
T'as me doublé ?
Il te dira oui.
T'as me triplé ?
Il te dira non.
Voilà, dans cet épisode, j'ai parlé de l'histoire de Rabbi Jacob et dans le prochain, je parlerai de sa conception et de sa réalisation ainsi que de son impact social et culturel auprès du public.
Ah, monsieur, vraiment très doué.
C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle.
Vous écoutez...
Non, il ne souffre pas. Il a l'impression de souffrir.
Cinéma Radio.